voilà, ça fait un moment donné que j'ai envie de faire cet enseignement sur le rejet. Je me dis qu'après toutes les prières où on montait au ciel, où tout était merveilleux, je me suis dit, je vais les faire descendre du grenier à la cave. Mais bon, c'est certainement pour remonter un peu plus haut encore. Alors, j'ai demandé... Voilà, c'est comme la courbe de nos finances. Donner un peu plus, ça le montrera de plus en plus. Voilà, j'ai demandé à Annette hier si c'était possible de le faire en deux fois, parce que quand je m'y suis mise, je me suis dit, oh là là, à quoi tu t'es engagée, Colette? Voilà, donc j'ai eu la permission de la femme du pasteur, donc je suis couverte. Quelques synonymes au mot de rejet. Rejet, être rejeté, c'est être abandonné, éjecté, exclu, écarté, repoussé, non désiré. En pensant à ces divers rejets, est-ce qu'on peut dire de manière très claire qu'on n'a jamais subi de rejet? Ou qu'on n'en a jamais fait subir à d'autres? L'abandon, l'éjection. Et j'ai pensé que l'enfant avorté est éjecté. L'exclusion, et on est dans un monde d'exclusion, qu'on le veuille ou non. La réalité d'être écarté, repoussé, ou pour certains enfants, de ne pas avoir été désiré. Ça fait beaucoup de souffrance, tout ça. Dans notre société, mais aussi dans nos familles. Et puis c'est tellement lié, le rejet est tellement lié au secret de famille. Tu sais, il s'est passé ça avec un tel, mais il ne faut pas le dire. Voilà, ça c'est le secret de famille. Mais ça continue, ça continue, ça continue, il y en a pas beaucoup. Vous comprenez? On dit c'est secret. Mais ça fait le tour de la famille à voix basse. Et ça fait d'énormes dégâts. À votre avis, quel est le premier rejet? À vos mémoires, messieurs, mesdames, mes frères et sœurs. Le premier rejet a eu lieu dans le jardin d'Éden. Et voilà, oui, même le pasteur est resté coincé. Ça remonte à loin. Adam et Ève vont rejeter Dieu dans le jardin d'Éden. Et ils vont choisir la voix du serpent, donc d'écouter la voix du serpent, mais ils vont aussi choisir la voix VOIE, c'est-à-dire de suivre le chemin du serpent. Et le serpent, c'est Satan. Le serpent va dire, « Ève, Dieu t'a-t-il réellement dit ?»« Allez !» Ou de manière plus littérale, plus moderne, « Fais ce que tu veux, Ève, tu t'en trouveras certainement pas plus mal, hein ? Loin de là !» Dieu a dit, « Mais franchement, ce que le monde te réserve, c'est tellement mieux !» Alors, le choix d'Ève et d'Adam de s'éloigner de leur créateur, il a été déterminant pour eux, mais il a aussi été déterminant pour toute notre humanité. Le rejet qu'Ève et Adam ont eu du créateur, c'est le même rejet qui est attaché à nous dès notre venue dans le monde. Alors, vous le verrez dans Genèse 3, ça a des conséquences. Hein, ils sont chassés, ils doivent travailler, madame va souffrir pour avoir ses enfants, monsieur va devoir, etc., etc. Et puis, bon, on sait la suite. Hein. Est-ce qu'on a déjà réalisé, je l'ai réalisé hier presque à 1h du matin, parce que Christophe a relu mon texte, il m'a dit, je comprends pas tout ce que tu veux dire. C'est mon baromètre. Hein. Et je me suis dit, est-ce qu'on a réalisé que la course effrénée de nos chercheurs contemporains pour vaincre la mort, pour faire reculer la mort le plus loin possible, c'est comme une manière de vouloir récupérer ce qui a été perdu au jardin d'Éden. J'ai oublié de vous le dire, mais au jardin d'Éden, on a perdu une chose aussi essentielle, la vie éternelle. On a perdu la vie éternelle. Et progressivement, notre vie est passée de 900 ans à 120, à 70, etc. On essaie de la remonter, mais fondamentalement, il y a un point final. On peut même pas dire qu'il y a trois petits points ou un point virgule. Humainement parlant, notre vie a un point final. Heureusement qu'il n'y a pas que la nôtre, il y a celle qu'on retrouve après. Alors on sait qu'Adam et Ève avaient mangé pour cela ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu va les empêcher de manger d'un autre fruit qui s'appelle le fruit de l'arbre de la vie. Et en fait, le fruit de l'arbre de la vie, ça nous donne une drôle d'espérance. Comme on n'en a pas mangé, on ne va pas rester éternellement dans la mort. On ne va pas rester éternellement coupé de Dieu. Et donc Dieu, dès ce moment-là, en empêchant Adam et Ève et en empêchant Satan de toucher à l'arbre de la vie, prévoyait une nouvelle chance, c'est-à-dire d'envoyer son Fils pour qu'il nous donne cette chance à la croix de tout recommencer. Donc quand on parle des différents rejets qu'on peut expérimenter au cours de notre vie, il y a donc le premier rejet, l'homme rejette son Dieu, son Créateur. Le deuxième rejet, on le connaît bien, on le vit régulièrement. L'homme rejette ses semblables. On le voit au fil des temps, on le voit partout. Mais déjà, première chose, on l'a vu dès la deuxième génération de notre humanité. Caïn rejette Abel et le tue. Et donc, ce rejet de la vie va se perpétuer et régulièrement, la mort va essayer de gagner. Le troisième rejet, qui n'est pas plus facile, c'est l'homme va se rejeter lui-même. Suite au rejet des autres ou au fait de ne plus être en communion avec son Créateur, l'homme va se rejeter. Et je me suis fait une petite réflexion face à l'actualité. Dernièrement, plus d'une trentaine, je crois, d'employés de France Télécom sont passés par la fenêtre et se sont suicidés. Rejetés par leur hiérarchie, mis à mal dans leur confiance en eux-mêmes et leur estime d'eux-mêmes. Ils ont choisi la fenêtre plutôt que de devoir prendre la porte. Réfléchissez, c'est tellement important. Ils auraient pu sortir par la porte et continuer à vivre. Mais ils ont choisi de passer par la fenêtre et de mourir. Combien il faut se sentir rejeté pour en arriver à une telle extrémité. J'enjambe la fenêtre du 9e étage et je dis, c'est fini. Je prends la porte, je me fais rejeter, mais je décide de rebondir. Alors, plusieurs racines au rejet, et pour moi, la parole est une manière de rejeter facilement l'autre. J'en dis quelques-unes et vous verrez que soit vous vous y retrouvez, soit vous penserez à d'autres petites phrases anodines, innocentes, qui vous ont été dites. Et vous avez essayé de les oublier, mais elles sont toujours dans un coin de votre cœur ou de votre pensée. Franchement, t'es vraiment pas à la hauteur de la situation. Si on avait su, on aurait réfléchi à deux fois avant de te confier quelque chose. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille, quelle condamnation, quelle malédiction. Ton père a été un truand, ben c'est sûr, tu seras un truand. Ta mère a été une pute, tu seras une pute. C'est tellement facile, en fait. Si au moins tu essayais de t'en sortir, j'ai l'impression que tu passes ton temps à te faire plaindre. C'est tout ce que tu as trouvé, tu te fais plaindre. Mais t'as qu'à oublier, bon sang de bonsoir, t'as qu'à oublier, tu regardes en avant. Tu ressasses toujours les mêmes vieilles pensées négatives. On dirait que tu tricotes avec du vieux fil. Et si tu arrêtais de te plaindre? Et si au lieu de te plaindre, tu regardais aux besoins des autres? Tu verrais qu'il y a bien pire que toi, hein. Franchement, il y a pire que toi. Tu ressembles tellement à ta mère ou à ta grand-mère, si tu savais. Ta grand-mère paternelle. Oi, oi, oi. Maternelle aussi. Est-ce que vous vous reconnaissez dans certaines de ces phrases? Il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit? Un petit paquet? Ces paroles semblent, pour certaines d'entre elles, tout à fait innocentes. Mais elles sont comme des coups d'épée, comme des coups de poing dans l'estomac. Et puis, on reçoit là-dedans et puis on fait avec. Hein. On n'a pas vraiment de choix. Quel effet ça a fait sur vous? Quel effet ça fait sur nous quand on reçoit ce genre de phrases? D'accord, t'es que... Si tu bougeais, si au moins, t'es vraiment pas, la machine est en route. Oups. Et je me dis, mais ça c'est tellement facile ces petites phrases. Et je vous encourage, je m'encourage en premier à faire attention à ne pas les utiliser. Elles passent très rapidement dans une conversation. Mais elles restent. Et elles font leurs effets. Et puis il y a les regards. Et alors là, au niveau du regard, j'ai pensé à certains regards reçus par des personnes de la parole de Dieu, de la Bible. Les regards qu'ont posés certains hommes et certaines femmes sur la Samaritaine, vous savez la conséquence de ces regards? Vous savez? Mais cette brave femme, cette brave Samaritaine, a été obligée d'aller puiser l'eau à 3 heures de l'après-midi pour ne voir personne et à l'heure la plus chaude de la journée. Et vous savez ce qui se passe à 3 heures de l'après-midi à ce puits? Elle rencontre son sauveur. Vous comprenez? Elle rencontre son sauveur à l'heure la plus dure de la journée. J'ai pensé au regard condescendant des amis, des collègues, de Zachée. Condescendant et de jugement, hein, bien sûr. Et ces regards ont mené Zachée où? En haut d'un arbre, un sycomore. Parce que Zachée ne voulait pas être vu par ceux qui se moquaient de lui, mais il voulait voir Jésus. Et alors qu'il est caché dans un fouillis de feuilles, Jésus lui dit « Hé, Zachée, ce soir je m'invite chez toi avec mes disciples. Alors va faire un bon repas, descends de ton arbre, prépare-moi quelque chose de bon. » On n'en parle pas beaucoup, mais je pense aussi à Marie et Joseph. Leur situation, la situation de Marie, fille mère, et de Joseph, ce père de substitution. Qu'est-ce qu'ont été les regards? Qu'est-ce qu'ont été les paroles? Ah, cette Marie, on la croyait tellement, tellement pure, etc. Puis elle s'est fait faire un gosse dans le dos, comme ça. Ça ne doit pas être Joseph, donc on voudrait bien savoir qui c'est. La rumeur. Vous connaissez la rumeur? On n'a rien dit à Marie, on n'a rien dit à Joseph. mais on a blablaté. Et sur Joseph, ben, les regards, c'était pas mieux. Il méritait vraiment, vraiment mieux que cette Marie. Il méritait mieux que ça. Hein. Alors certains d'entre vous, peut-être les plus âgés, connaissaient cette chanson de Moustaki. Voilà ce que c'est mon vieux Joseph que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien, rien ne serait arrivé. Mais tu as préféré Marie. Et je me dis, ce brave Joseph dont on parle si peu, quel courage il a eu, quel courage il a fallu avoir pour vivre tout ce qu'il a vécu avec Marie et Jésus. Mais l'un comme l'autre n'ont pas fait attention aux paroles ou aux regards qui ont été posés sur eux. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils étaient certains de leur destinée et de leur appel. Marie se savait la servante du Seigneur et elle avait dit « Ok Seigneur, je comprends pas trop ce qui va se passer, là tu me parles d'un enfant né du Saint-Esprit, d'une épée après, je comprends pas trop, mais je dis ok. » Et Joseph, ben, il a reçu par l'ange que pendant un temps il va être un père de substitution pour Jésus et pour Marie. Et ça va le conduire en Égypte pendant 10 ans. Et d'autres choses. Il va apprendre son métier de charpentier à Jésus. Mais sa vie n'a pas été facile. Je parle quelques instants d'un désir que j'ai au fond de mon cœur, que vous commencez à connaître tous, c'est mon désir d'aider les personnes sexuellement abusées. Alors je peux vous dire que les paroles, les regards, les gestes que l'abuseur peut avoir sur un enfant abusé, l'enferme à double tour. Et il faut de la patience, de la persévérance pour ceux qui veulent les aider quand ils sont devenus adultes, afin de les rejoindre dans leur prison. Un enfant abusé va entendre de la part de son abuseur, par exemple, des paroles gentilles. Tu sais, je t'aime bien. Tu comptes beaucoup pour moi. Je veux pas te faire de mal. Non, non, je veux pas te faire de mal. Et dans un premier temps, l'abuseur peut tenir dans le cœur de l'enfant la place de substitut paternel. Au moins, lui, il m'aime. Il ne me rejette pas. Il me prend dans ses bras. Il me fait des cadeaux. À d'autres moments, l'abuseur va jouer avec la peur sur l'enfant pour qu'il se taise. Si tu parles, je vais jeter ton lapin dans la rivière. Ou bien, si tu dis quelque chose, je m'occuperai de ta petite sœur. Vous comprenez ? Entre l'amour et l'angoisse, dans quelle prison se trouve l'enfant abusé ? Ils se sont rejetés par son abuseur progressivement, cet abuseur à qui il faisait d'abord aveuglément confiance. Mais il va aussi, et ça il ne faut pas l'oublier, se sentir rejeté par les siens, par papa, par maman, par ses frères et sœurs, par les grands, les instituteurs, tous ces gens qui n'ont rien vu, qui n'ont rien compris, qui n'ont rien dit, qui n'ont pas pris position. Ils auraient dû le protéger. Ils auraient dû lui venir en aide. Et ils n'ont rien fait. L'abus sur un enfant est un meurtre physique. Il y a une partie de son être qui arrête de vivre. C'est un meurtre sexuel. Sa sexualité est touchée et parfois pour très longtemps. C'est un meurtre psychologique. Sa confiance est mise à mal. Pour certaines, dans certaines situations, malheureusement, ça peut être un meurtre spirituel quand l'abus est fait par des hommes ou des femmes avec une autorité spirituelle. L'abus est alors l'enfer de l'enfermement. Et vient alors le rejet, le sentiment d'abandon, le désir de ne plus vivre. Et puis progressivement, la dernière chose, l'enfant abusé va se rejeter lui-même. L'enfant qui a été abusé, touché injustement, va se rejeter lui-même. À savoir que presque 75% des personnes prostituées sont des personnes abusées. À savoir que les personnes abusées font très, très souvent des tentatives de suicide. Et là, je pense de manière plus globale aux enfants abusés et aux enfants maltraités, parce qu'on touche aussi dans la maltraitance, on touche à l'intégrité de l'enfant. Est-ce que ça nous est arrivé de nous dire pour nous-mêmes ou des gens qu'on connaît, celui-là, il est en train toujours de jouer avec sa vie, il a dû se passer quelque chose. Il est toujours en train de flirter avec la mort. Franchement, je peux croire qu'il s'est passé quelque chose pour qu'il en arrive à ça. Peut-être simplement aussi vous dire que le rejet a une influence différente selon l'âge que l'on a quand on subit le rejet. Si je subis le rejet très très tôt, c'est-à-dire pendant les 3 premières années de ma vie, le rejet, l'abus, la maltraitance, le sentiment d'abandon, etc., ça aura des conséquences énormes. Et les psychiatres disent que la plupart des psychoses se mettent en place dans la vie de l'enfant dès avant ses 3 ans et que ça se développe après. Donc sachons bien que nos enfants ou l'enfant qu'on a été, les enfants qu'on a été, quand ils ont subi des traumatismes importants quand ils étaient très jeunes, peuvent malheureusement être marqués pour longtemps. L'enfant, quand il naît, c'est comme de physiquement, mais même psychologiquement, c'est comme de la pâte à modeler. On en fait ce qu'on veut. Ça, c'est important. On le laisse tomber, il rebondit, il n'a rien. Ça ne marque pas de la même manière, sauf les enfants de verre, aux os de verre, etc. Mais souvent, il y a des enfants qui tombent et on a l'impression que ça ne leur fait pas vraiment mal. Et de la même manière, les impacts psychologiques, on a l'impression que ça n'a pas beaucoup d'incidence. Mais comme ça peut marquer. Comme il n'a pas posé ses justes limites vis-à-vis des membres de sa famille, papa, maman, ses frères et sœurs, les autres enfants à l'école, les adultes, eh bien on peut faire n'importe quoi avec lui. Et on peut lui faire très mal sans en avoir conscience. Ça, je le dis parce que c'est important. Très petit, un enfant est très sensible. Alors là, je vous donne un témoignage et surtout, je vous demande de ne pas le galvauder. Une jeune femme me disait dernièrement, je ne comprends pas comment j'ai pu permettre à mon instituteur de me demander de lui faire des fellations derrière le tableau noir pendant plus d'une année. J'avais alors 6 ans. Mais je sentais qu'il m'aimait bien et moi aussi, je l'aimais bien. Il était plus doux que mon beau-père qui nous frappait, mes frères, ma sœur et moi. Alors je l'ai laissé faire. Mais plus tard, quand j'ai été en foyer, j'ai eu une éducatrice à qui j'ai pu parler de tout ça. Et elle l'a aidé à porter plainte et cet homme a été en prison. Elle ajoute, j'ai pris conscience de tout ce que cet instituteur abuseur a abîmé dans ma vie. Heureusement, j'ai donné ma vie au Seigneur il y a une 10aine d'années. Et progressivement, il me restaure. Mais il faut du temps, souvent beaucoup de temps. Ces blessures-là ne guérissent pas en 2 minutes. J'en parlerai un peu plus loin. J'aborde rapidement. Les lieux du rejet sont nombreux et variés. Je le réaborderai dans le prochain enseignement. Ça peut être la famille, l'école, notre lieu de travail, l'église, les rencontres entre collègues ou amis, etc. Dans ces divers lieux, dans ces diverses circonstances, on peut subir des rejets multiples. Les conséquences du rejet sont aussi multiples et variées. Et l'un ou l'autre va prendre l'une ou l'autre de ses conséquences selon ce qu'il est, profondément. C'est très souvent une mauvaise estime de soi, un désir de non-vie, de mort. La difficulté de nouer des relations avec les autres, le manque de confiance en soi, en ce que l'on est capable de faire. La honte toxique et la culpabilité, j'en ai déjà parlé une autre fois. Diverses addictions pour combler les vides à l'intérieur. L'alcool, la drogue, la cigarette, les jeux, la pornographie. Certains maintenant sont acharnés au boulot et c'est une addiction. Il y a aussi cette autre conséquence qu'est le contrôle, le perfectionnisme. Je contrôle tout, tout. Tout dans mon emploi du temps va être contrôlé par moi pour qu'il ne m'arrive rien que je n'ai pas décidé. Ça, c'est important, le perfectionnisme et le contrôle. Et on en parle très peu dans les églises. Parce qu'en fait, dans les églises, c'est tellement bien d'avoir des serviteurs qui bossent. Alors, comme on veut aller avoir des serviteurs qui bossent, on va surtout pas leur dire qu'ils en font trop. On va leur dire merci, peut-être. Mais on leur dira, tu pourras venir la prochaine fois à la réunion, on a encore quelque chose à préparer pour la fête de Noël. Et voilà, on en rajoute une couche. Maintenant, je reviens à quelques exemples bibliques du rejet. Par certains hommes de Dieu, ou par des personnes qui ont croisé le chemin de Jésus. Mais là, je n'ai mis que les personnes de l'Ancien Testament. Vous aurez les autres une autre fois. Si vous pensez à Moïse, Moïse a été arraché des eaux par la fille du Pharaon, il a grandi dans un milieu privilégié, et puis il s'est retrouvé bien choyé pendant tout un temps, et il a vu la détresse de son peuple, le peuple des Hébreux, et puis il s'est dit « non, je vais aller aider mes frères ». Et puis quand il descend dans les rues et qu'il voit un Égyptien s'attaquer à un Hébreu, il le tue. Et là, ses frères hébreux lui disent « bon, t'as rien demandé, hein, Moïse. On t'a pas demandé d'être le juge entre nous et les Égyptiens. » Et là, Moïse va partir. Il va partir au désert, et vous vous rappelez combien d'années? 40 ans de désert. C'est pas un jour, hein, 40 ans. Et c'est après ces 40 années où il a gardé les troupeaux, où il a, je ne sais pas, fait quoi, il s'est marié, il a eu des enfants, etc. Mais bon, le service de Dieu, aimer ses frères, les Hébreux, les aider, ce qu'il avait reçu. Pouette, 40 ans à ne rien faire. Non, 40 ans de préparation. Et puis, il y a ce jour où l'Éternel l'appelle au buisson ardent. Vous retrouvez ça dans Exode 2 et 3. David, le roi David. Avant d'être le roi David, il a été le plus jeune d'une famille de 12. Et en fait, c'était le plus jeune, donc il allait garder les troupeaux. Au moins les moutons, il pouvait les garder, puis il avait un chien, donc plus petit, on pouvait s'en occuper comme ça. Et quand Samuel va venir pour oindre le nouveau roi pour le peuple d'Israël, le père de David ne va même pas penser à lui. Il n'envisage même pas une seconde que David puisse devenir roi. Il pense à un tel et à un tel et les grands là, les solides. Qu'est-ce que dit Samuel ? Les hommes regardent aux apparences. Les hommes regardent aux apparences, mais l'Éternel regarde au cœur. Et l'Éternel, il a vu David derrière son troupeau. Il a vu son cœur déterminé. Il a vu que lui, au moins, il n'aurait pas peur de Goliath. Parce qu'il ne comptait pas sur ses propres forces, il comptait sur la force de l'Éternel. Alors, vous connaissez Joseph, on en a parlé à plusieurs reprises. Mais à cause de l'appel de Dieu, à cause de cette vision des gerbes, sa gerbe à lui serait plus grande que celle de tous les autres, ben ses frères vont l'abandonner, le rejeter, le vendre à des marchands. Recueilli par des Égyptiens, il va passer par plein de péripéties, jusqu'au moment, et ça va durer des années aussi, hein, je n'ai pas compté le nombre d'années, mais c'est pas un ou deux. Hein. Combien ? 13 années. C'est un peu moins de 40, mais quand même, il faut les passer, hein, les 13 années. Chez le pharaon, avec sa femme qui vient pour vous attaquer et dire que vous l'avez violée. Il faut assumer. Et puis un jour, la vision se réalise. En fait, il a entendu parler, il a entendu de là-haut, qu'il y aurait une famine. Il a dit au pharaon, ce serait bien si on faisait des réserves. Hein, on a beaucoup de blé en ce moment, ce sont des années grasses, là. On va pouvoir faire des réserves, ça nous servira quand il y aura la famine. Voilà, donc le pharaon, comme c'est Joseph est devenu quelqu'un d'important et de sérieux, dit « Ok, fais tes greniers ». Et puis Joseph va faire ses greniers. Et à un moment donné, la famine arrive, elle arrive en Égypte, puis elle arrive aussi chez les Hébreux. Et là, Jacob va dire à ses grands enfants, allez voir un peu en Égypte s'ils n'ont pas un peu de blé. Et là, c'est la rencontre, vous connaissez, de Joseph avec ses frères. Ils savent gerbe plus grande. Moi, quand j'ai réalisé ça hier, je me suis dit, mais c'est merveilleux. Sa gerbe plus grande, elle était maintenant dans ses greniers. Tout ce qu'il avait emmagasiné là dernièrement, c'était sa gerbe. Et elle devenait capable d'aider ses frères plus âgés, son père, à sortir de la famine. Vous vous rendez compte? Et dans ce contexte-là, Joseph, il ne va pas humilier ses frères. Il ne va pas les rabaisser, il ne va pas leur dire « Nananer, moi j'ai réussi !» On va faire un bilan, puis on va dire combien vous me devez. Hein, puis vous viendrez me donner l'argent plus tard. Non, non, non. Il leur fait un banquet. Il leur fait du bien. Et il demande à revoir son père et son frère Benjamin. Élie, dans 1 Roi 18, vous connaissez aussi Élie. Alors souvent on parle d'Élie comme étant celui qui dit, dont on dit, il pria. Et il ne plut pas pendant 3 années. Je prie et il ne peut pas. Dans le nord de la France, parfois on se dit, ça serait bien, on aurait du soleil et tout. Et puis, il prie et à nouveau il plut. Donc on connaît l'homme de foi. Élie est un homme de foi. Et on en parle dans le Nouveau Testament. Mais à côté de cet homme de foi, il y a un homme de combat. Et cet homme de combat, mais il va combattre qui ? Akab et Jézabel, qui ont fait en sorte d'élever des autels à différents endroits, dont dans le territoire d'Israël, et le peuple d'Israël s'est détourné de l'Éternel pour se tourner vers Baal et pour adorer Baal. Et Élie ne supporte pas. Je ne sais pas si un jour vous avez eu au fond du cœur ce sentiment, je ne supporte pas ça, donc je vais agir même au péril de ma vie, c'est ce qu'ont fait certains résistants pour sauver des juifs par exemple, je ne supporte pas. Et donc, Élie va demander au prophète de Baal, ils étaient 150, c'est quand même pas un ou deux, il va leur dire, voilà, on va faire un challenge. Vous allez faire de votre côté votre lieu de sacrifice. Hein, vous allez élever votre autel et puis vous mettrez dessus une bête pour le sacrifice. Moi, de mon côté, je construirai le mien. Et après, on verra qui de Baal ou qui de l'Éternel va embraser le sacrifice, parce qu'on n'y mettra pas le feu. Et voilà, les 150 qui bossent, qui se mettent à travailler, puis disent oh, « il est beau, hein, notre hôtel, il est grand !» Pas de problème. Et puis Baal, de toute façon, il va nous en donner hein, un peu de feu, là, c'est pas grave, il est capable, il est cap. Son côté, Élie, tout seul, va prendre 12 pierres, les 12 tribus d'Israël, qui représentent les 12 tribus d'Israël. Il les met les unes sur les autres. Il met une belle vache dessus, ou un beau bouc, je ne sais pas. Et maintenant, il va voir les prophètes de Baal et ils disent « Alors, les amis, quand est-ce que ça va s'enflammer, votre histoire, là ?» Il dit « À midi, moi, de mon côté, ce sera embrasé. » Et il commence à souffler sur le feu, les prophètes de Baal, en disant « Baal, 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 viens nous aider !» Pop ! Rien du tout. De son côté, à midi, Élie est là et rend grâce. Et le feu vient tout seul et il embrase tout. Il consume tout. Le sacrifice, le bouc ou la vache, et ce qu'il y a en dessous. Et alors, il se passe quelque chose. Jézabel, quand elle apprend ça, elle dit « Si demain, à la même heure, je n'ai pas tué, trucidé, cet homme, qu'il en soit fait de même pour moi. » Et donc Élie entend parler de cette menace de Jézabel, donc il vient de s'affronter avec 150 prophètes de Baal, j'ai oublié de dire, qu'il a trucidé, qu'il a fait tuer. Et donc c'est pour ça que Jézabel est montée sur son cheval de bataille. Et donc Jézabel dit, si cet homme, si cet Élie est encore là demain, je tue mes propres mains. Et qu'est-ce que fait Élie? Vous savez ce qu'il fait? Il vient de se battre depuis longtemps, il a prié, la pluie est venue, il a prié, la pluie est repartie. Vous savez ce qu'il fait? Il s'enfuit au désert. Il se fait la malle. Pardon pour l'expression. Vraiment, il prend ses pieds à son cou et il s'en va. Il est découragé. Désabusé. Il n'en peut plus, cet Élie. Il est tout seul depuis tellement de temps. Et puis, il va aller sous un genêt dans le désert et il va s'endormir. Et là, première fois, Dieu vient et lui dit « Mange et bois et prends des forces. » Et Élie se rendort. Il mange, hein, bien sûr, c'était pas mauvais, une bonne galette. Et il se rendort une deuxième fois. Un ange vient et lui dit « Mange, Élie, et prends des forces parce que tu vas devoir marcher. » Drôle d'histoire, hein. Et quand la troisième fois l'ange revient, l'ange de l'Éternel, il lui dit « Maintenant tu pars. Maintenant tu pars, tu marches. » Et il va marcher, vous savez combien de temps? Je crois que c'est 40 jours. Le mot 40 est important dans la parole de Dieu. Et il reçoit une mission. Et cette mission, ce sera la dernière. Allez oindre de la part de l'Éternel un nouveau roi pour la Syrie, un nouveau roi pour le peuple d'Israël et Élisée pour lui succéder comme prophète à sa place. Et sa mission est alors terminée. Et l'Éternel le ramène au ciel, plouf, et il laisse son manteau à Élisée. D'une manière assez... Je pourrais faire l'école du dimanche bientôt, hein, ça passerait. Donc le rejet est aussi lié au sentiment d'abandon et c'est un lieu de non-vie. On en parlera aussi plus tard, mais simplement vous donner, certains le connaissent déjà, mais mon témoignage rapide, J'ai réalisé quand j'avais moi-même 40 ans, je m'étais convertie à 19 et demi, j'avais servi le Seigneur, j'avais fait beaucoup, je comptais pas mon temps, Puis à 40 ans, j'ai réalisé que j'allais pas bien. Franchement, j'allais pas bien, j'étais toujours célibataire, je n'avais pas encore rencontré ce monsieur. Et franchement, j'allais pas bien. Au point que d'une part, j'ai fait une tentative de suicide quelques mois avant, et que ma communauté m'a dit « Colette, tu vas pas bien, on t'envoie en Amérique ». Je me suis retrouvée en Amérique où on m'a dit de prendre soin de moi. C'était un bouquet d'eau, hein. Ah, t'aurais voulu le cadeau, hein. Ben oui. Et c'est pas pour toi, tralala. Et là, le Seigneur m'a permis de vivre 3 guérisons. J'avais attendu 20 ans après ma conversion pour les vivre. 3 guérisons. J'ai pris conscience que mon père m'avait rejeté le jour de ma naissance parce que je n'étais pas le bon cadeau. J'étais née le même jour que lui, le 3 septembre 1955, et lui le 3 septembre 1915, il y avait 40 ans de différence entre nous, encore 40, et là, il me rejette. Et avec Jésus, j'ai été capable de revoir ce regard de rejet. Il a détourné la tête du berceau en disant « c'est pas encore le bon cadeau ». Mes parents avaient une ferme et mon père désirait qu'un garçon reprenne sa place, prenne la continuité à la ferme. Et comme on était 9, je ne sais pas combien vous êtes dans vos familles, mais 9 ça commence à compter autour d'une table. Comme on était 9, mon brave papa travaillait la nuit dans une usine et la journée à la ferme. Il se disait, si j'avais des bras en plus, ce serait pas mal. Et vous savez le comble, c'est que sur 9 enfants, il a eu 2 fils qui se sont carapatés pour faire autre chose et il n'est resté que 7 filles. 7 filles, certaines sont restées sur la ferme et moi, j'ai pris la poudre d'escampette. Je suis venue à Lille. Et je me dis, je vous parlerai que de cette blessure. Je peux vous dire que le Seigneur m'a rejoint dans cette blessure. Il m'a rejoint dans mon berceau. Il est venu dire à la petite Colette, Colette, même si ton papa ne t'a pas désiré, ne t'a pas accueilli comme tu le méritais, parce que tu n'étais pas pour lui le bon cadeau, même si il n'a pas pu faire ce geste tout simple d'ouvrir ses bras pour te prendre tout contre lui. Moi, je vais le faire. Moi, je vais le faire. Et Jésus l'a fait. Et vous savez ce qui est arrivé? À ce moment-là, la grande Colette, pendant qu'il y avait cette relation d'aide qui a duré plusieurs semaines, la grande Colette, elle n'était pas contente du tout. Elle disait, ben voilà qu'on s'occupe de la petite et on ne s'occupe plus de la grande. Ça va continuer encore longtemps? Et franchement, j'étais pas contente. Et je disais à Hélène, la personne qui m'accompagnait, mais Hélène, j'en ai marre, moi, je voudrais qu'on s'occupe de moi. Et puis de son côté, elle me disait, Colette, tout ça en anglais, je vous imagine pas, imaginez le sketch. Colette, est-ce que tu prendrais pas la petite Colette avec toi? Simplement pour une fois, tu verrais si tu peux t'en occuper, etc. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et ça dura un moment. Puis lors d'une rencontre où Jésus m'avait pris dans ses bras, Hélène a dit, mais et si toi, Colette, tu acceptais maintenant cette petite Colette, si tu acceptais qu'elle vienne te rejoindre en toi, si tu acceptais de la prendre dans tes bras? Et quand j'ai accepté de prendre cette petite Colette dans mes bras, un petit bout de chou, la petite robe pleine de petites fleurs qu'elle avait sur elle est venue à ma taille et on n'a plus fait qu'un. Et c'est-à-dire que tous ces rejets que j'avais vécus pendant ma vie, et je ne vous ai pas parlé de beaucoup de choses, mais il y en a eu pas mal, tous ces rejets ont trouvé leur aboutissement quand la grande Colette acceptait de ne plus être coupée d'une partie d'elle-même. Et très souvent, quand on est rejeté, une partie de soi refuse de grandir et réclame des comptes et dit « J'ai envie qu'on s'occupe de moi, tralala, je vais piquer ma crise. » Et puis elle l'a fait, la crise. Hein. Pendant mon adolescence, j'ai pensé à la mort, après j'y ai passé. Je me suis occupée des plus blessés pour oublier ma propre souffrance. C'est pas mal aussi dans les églises, hein. C'est dans l'air du temps. Quand on souffre beaucoup, on nous envoie s'occuper de plus grave que nous, ça ira mieux. Et je l'ai fait, hein. J'ai tenu 20 ans, puis au bout de 20 ans, il n'y avait plus grand-chose, donc Colette s'est arrêtée. J'arrête pour aujourd'hui. Il y a un petit moment, j'ai accompagné une personne qui a souffert de multiples rejets, dès sa naissance. Et au cours de l'entretien, j'ai vu l'image d'un vieux filet de pêche. Et ce filet de pêche, tout vieux, était rempli de coquillages qui s'étaient agrippés, d'algues séchées qui avaient bien séché entre les mailles, de débris toutes sortes qu'avait renvoyé la mer. Et tout ça était tellement bien accroché que le grand filet était en fait tout ratatiné. Tout ratatiné. Il y avait des nœuds avec les corps étrangers, etc. Et cette image m'a parlé des conséquences des rejets dans la vie d'une personne, dans la vie de cette personne en particulier et de bien d'autres. Le rejet fait des nœuds. Le rejet accroche des choses dans nos vies, des poids, des cochonneries, des coquillages, des ceci, des cela, avec un peu de goudron. Vous savez, quand il y en a qui déversent un peu de goudron dans la mer. Colle bien au filet. Et ça nous amène à nous ratatiner. Et pour moi, c'est important combien, si on vérifie dans nos vies, combien à certaines périodes, on s'est retrouvé complètement ratatiné. Alors j'ai envie d'ajouter une chose, souvent dans nos églises, certaines plus que d'autres, on utilise cette phrase de 2 Corinthiens 5, 17 en disant « Toutes choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et puis la personne qui a plein de problèmes du passé, qui les ressasse, et ça fait mal, on lui dit quoi ?« Toutes choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ben non. J'ai envie de vous dire, ça se passe pas comme ça. À la croix, le Seigneur s'occupe de notre péché, donc de tous les péchés qu'on a fait avant. Mais vous savez très bien qu'après, régulièrement, on est obligé de revenir à la croix pour lui dire, tu pourrais pas effacer cette ardoise-là, Seigneur. Elle s'est encore remplie, j'ai pas réalisé, mais franchement, elle est bien remplie. Et le Seigneur, il efface. Et avec nos blessures, on a l'impression que la foi où on a donné sa vie au Seigneur, ben tout s'est résolu. Ben non, mes amis, tout ne se résout pas à notre conversion, contrairement à ce qu'on pense. Ça serait très simple. Mais tout ce qui s'est accroché complètement partout, ben faut prendre le temps de le retirer, de décrocher, de nettoyer, de purifier, d'aseptiser pour que ça colle plus, pour que ça fasse plus mal. Je voudrais qu'on ferme les yeux quelques instants et pour pouvoir mieux visualiser notre filet de pêche. Est-ce qu'il est grand, bien étendu, en plein soleil, prêt à servir? Ou est-ce qu'il est plein de déchets? Est-ce qu'il est sale? Est-ce qu'il est ratatiné? Comme nous avons décidé de donner nos péchés au Seigneur, de la même manière, nous devons décider de lui remettre nos blessures. Toutes nos blessures. Nos blessures de rejet, d'exclusion, d'abandon. nos blessures de solitude, de tristesse, d'envie de mourir. Toutes ces choses-là, nous pouvons choisir de les déposer à la croix du Seigneur et de recevoir sa grâce un peu comme un onguent, comme une huile qui cicatrise après la purification. Je dois simplement ajouter, quand on a vécu beaucoup de rejet, beaucoup de souffrances dues aux autres et surtout à des personnes qu'on a beaucoup aimées, on a besoin parfois d'être aidé pour s'en sortir. On a besoin que quelqu'un fasse un mile de plus avec nous. On a besoin que quelqu'un nous prenne par la main et nous dise « Quand tu seras prêt, on ira. » On ira dans le passé. On retournera sur les lieux du crime et on verra ce que le Seigneur va faire de beau. Je demande à Jacques et à l'équipe de louanges de chanter le dernier chant. Merci.